Afrique, le monde aujourd'hui. Ici Chérubin Gaby Dorsil et Morgane Guériac.
Bonsoir et bienvenue à tous. Ce mardi 8 novembre 2016, c'est le jour J ici aux États-Unis. Les Américains élisent leur 45e président.
Émission spéciale ce soir. On fera le point en direct des bureaux de vote avec nos envoyés spéciaux et correspondants. Nicolas Pinault en banlieue de Washington.
C'est discipliné et calme, mais on a les supporters des deux camps, des observateurs qui sont là et qui ont des prospectus à distribuer aux électeurs qui arrivent.
Et Jacques Aristide nous parlera de New York.
Hillary Clinton, la candidate démocrate, a voté ce matin vers les 8h, là où elle réside, à Chappaqua.
Quel que soit le vainqueur, cette présidentielle revêt un caractère historique. Nous dresserons le portrait des deux principaux candidats, Hillary Clinton et Donald Trump.
Explication du système électoral.
Impression de ceux qui ont voté.
Mais d'abord, un rapide tour d'horizon de l'actualité.
Le Niger, frappé par une attaque terroriste, tôt ce matin, 5 soldats nigériens ont été tués et 4 sont portés disparus à Bani Bangou, dans l'ouest du pays, près du Mali. Les assaillants sont venus à bord de 2 véhicules et 10 motos et étaient lourdement armés, selon un communiqué du ministère nigérien de l'Intérieur.
Explosion d'une grenade à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une fillette a été tuée et 31 casques bleus indiens ont été blessés aujourd'hui. Donc, dans la capitale de la province du Nord Kivu. D'après l'ONU, des casques bleus du contingent indien faisaient du sport dans le quartier de Kishiro au moment de l'explosion.
RDC toujours, la nomination d'un nouveau Premier ministre devrait intervenir dans une semaine. C'est ce qu'annoncent les chefs des délégations de la majorité et de l'opposition au dialogue national. Le nouveau Premier ministre sera chargé d'organiser le scrutin présidentiel reporté en République démocratique du Congo. Rappelons que le 18 octobre, la majorité et une frange minoritaire de l'opposition congolaise ont signé un accord qui prévoyait de constituer un gouvernement d'union nationale dirigé par un Premier ministre d'opposition au plus tard le 8 novembre.
Sachez enfin, sur la RDC toujours, que 2 journalistes arrêtés à Kolwezi, Kasson et Gaston Mouchid, pour avoir diffusé l'interview d'un opposant au président congolais Joseph Kabila, ont été libérés aujourd'hui après 24 heures de détention. C'est ce qu'a annoncé l'un d'eux à l'AFP.
En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires ont entamé un mouvement de grève de 72 heures, largement suivi dans le secteur de l'éducation, en vue de dénoncer une réforme des retraites en Côte d'Ivoire qui baisse les pensions de 30 à 50%.
En Mauritanie, une trentaine de dockers du port de Nouakchott en grève pour protester contre une réforme de leur activité ont été arrêtés lundi après des heures avec les forces de l'ordre, c'est ce que rapporte l'AFP. Les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir pour protéger les non-grévistes face à un mouvement violent de leurs collègues qui ont brisé les barrières du port pour occuper des lieux et les empêcher de travailler, a précisé une source auprès de la gendarmerie.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, une édition spéciale sur les élections américaines.
En Irak, la marche des troupes gouvernementales et de leurs alliés se poursuit en direction de Mossoul, grand fief du groupe État islamique dans le nord du pays. Des combattants kurdes irakiens ont fait sauter l'un des derniers verrous du groupe en prenant aujourd'hui la ville de Bashika. L'offensive contre Mossoul a commencé le 17 octobre. Entre-temps, en Syrie, la force arabo-kurde continue à progresser vers Raqqa, autre grande ville encore contrôlée par les djihadistes.
Les policiers français ont identifié un des organisateurs à partir de la Syrie des attentats de Paris et de Bruxelles. Il s'agit du belgo-marocain Oussama Attar, surnommé Abou Ahmad, un vétéran du djihad et membre du groupe État islamique. Cette avancée intervient quelques jours avant la commémoration de ce week-end en France des attentats de Paris et la réouverture samedi de la salle de concert du Bataclan. Clan qui avait été attaqué par les djihadistes.
L'Arabie saoudite accuse les rebelles chiites houthis du Yémen d'avoir confisqué l'aide humanitaire destinée à la population civile. Au moins 34 bateaux ont ainsi été saisis sur une période de 6 mois, selon le général Ahmed Assiri, porte-parole de la coalition arabe au Yémen. L'ONU n'a aucun représentant sur place pour superviser la distribution de cette aide bloquée dans le port d'Odeida, le dernier que contrôlent les houthis. Rappelons que la guerre au Yémen a fait plus de 7000 morts depuis mars 2015. française.
La Cour suprême britannique a annoncé aujourd'hui qu'elle examinerait du 5 au 8 décembre l'appel du gouvernement contre la décision de la Haute Cour de Londres de l'obliger à consulter le Parlement avant de lancer le divorce avec l'Union européenne. Cette décision sera connue probablement début d'année prochaine, a ajouté la Cour suprême, précisant que le cas sera examiné par la totalité de ses 11 juges. Les Britanniques, rappelons-le, se sont exprimés lors du référendum du 23 juin pour leur retrait de l'Union européenne.
De retour avec vous, Morgane Guériec et Chérubin Gaby Dorsil pour cette édition spéciale élection présidentielle américaine 2016.
La candidate démocrate Hillary Clinton a voté peu après 8 heures ce matin dans une école élémentaire près de son domicile de Chappaqua dans l'État de New York. Attendue plus d'une heure par une foule enthousiaste d'environ 150 personnes, elle a voté en compagnie de son mari, l'ancien président Bill Clinton. Voici sa réaction au sortir du bureau de vote.
C'est une sacrée leçon d'humilité. Vous savez que je suis consciente des responsabilités, de ce que cela signifie pour notre pays. Tellement de gens qui comptent sur le résultat de cette élection. Je ferai tout mon possible si j'ai la chance de gagner aujourd'hui. Merci.
Le candidat républicain a lui aussi voté. Donald Trump a déposé son bulletin à New York ce matin sans faire de déclaration particulière, Morgane.
On a commencé à voter et très tôt ce matin en Virginie et Nicolas Pineau s'est rendu à Arlington, en banlieue de Washington.
Il est 6 heures du matin lorsque le bureau de vote de l'école élémentaire Barcroft ouvre ses portes. Le soleil se lève à peine sur la démocratie américaine, mais ils sont nombreux à venir accomplir leurs devoirs citoyens. En 2 heures, 400 personnes ont déjà pu voter, comme Octavio, pour qui l'économie et la sécurité sont les sujets majeurs de cette élection.
La sécurité et l'économie, ce sont des thèmes importants pour la stabilité de notre pays et pour la stabilité du monde. Je pense que les États-Unis ont une place à part dans le monde de par sa taille, son leadership. Je veux être représenté par quelqu'un qui représente mes valeurs et ce que je crois être la meilleure valeur pour le pays.
Suzanne est la responsable adjointe du bureau de vote. Elle oriente les électeurs perdus et s'assure du bon déroulement du scrutin. Un rôle très important, selon elle.
Ça fait partie du processus de nos devoirs et responsabilités ici en Amérique. J'ai toujours voté depuis que j'avais 18 ans, mais maintenant je suis beaucoup vieille. Donc c'est vraiment excitant et j'aime voir le processus démocratique marcher.
Dans ce bastion démocrate, les pro-Hillary Clinton sont nombreux. Devin est ainsi venu voter avec sa petite fille, avant de l'amener à l'école.
C'est la championne pour les femmes, pour les enfants et pour les familles. C'est très important pour moi. Elle a dédié toute sa vie au service public et ça, c'est très important.
Ce mardi, on ne vote pas que pour la présidentielle aux États-Unis, mais aussi pour renouveler un tiers des sénateurs et la Chambre des représentants. On vote aussi pour élire les représentants des comtés ou les directions locales des écoles. C'est ce genre de scrutin qui intéresse Aaron.
Vous n'allez peut-être pas l'entendre souvent, mais moi, j'en ai marre de cette élection. Moi, je suis venu voter pour les élections locales, pour notamment la direction du comté.
Les bureaux de vote à Arlington fermeront leurs portes à 19h heure locale. Après, ce sera la longue soirée d'attente pour savoir qui deviendra le 45e président des États-Unis. Nicolas Pineau, Arlington, Virginie, VOA Afrique.
Retrouvons en direct maintenant Jacques Aristide, notre correspondant à New York, notre collègue. Quelle est l'ambiance à Times Square? Où vous vous trouvez maintenant, Jacques?
Oui, effectivement, cher Rubin, je suis ici en plein cœur de la ville de New York, à Times Square, vous l'avez dit. Devant ce bureau de vote, entre la 8e avenue et la 43e rue. Alors, je dois dire un mouvement plutôt lent, mais vous connaissez, c'est l'ambiance habituelle à New York, hein, c'est l'ambiance new-yorkaise, c'est-à-dire beaucoup de circulation, des véhicules bloqués dans la congestion routière, les rues qui pullulent de gens. mais devant ce bureau de vote, c'est plutôt un mouvement lent. Alors, comme ailleurs sur la côte est des États-Unis, ce bureau est ouvert depuis 6 heures ce matin. Contrairement donc à d'autres endroits dans d'autres États du pays, je n'ai pas vu de file d'attente devant ce bureau de vote depuis tôt ce matin. Mais même à un rythme lent, les gens viennent accomplir leurs devoirs civiques, chérubin.
Alors justement, Jacques, vous avez parlé à plusieurs électeurs ce matin. Quelles sont leurs motivations ?
Oui, Morgane, effectivement, j'ai eu l'occasion de parler à quelques-uns des électeurs, dont certaines qui votaient pour la première fois. Et alors, pour certains, c'était important d'avoir recours à ce droit démocratique afin de donner à leur pays un certain sens de direction sur les prochaines 4 années. Hein, pour ces personnes, il y a beaucoup de défis à relever dans les années à venir, tant intérieurs qu'extérieurs. Pour d'autres, entre Donald Trump et Hillary Clinton, le choix était clair. En fait, je dois dire que l'État de New York vote démocrate depuis de nombreuses années. Cette année, plus de 12 millions d'électeurs sont inscrits. Mais reste à voir le taux de participation. Par le passé, ce taux a été très bas et cela a tourné autour de 20%. Donc, c'est quelque chose à suivre pour voir si, lors de cette présidentielle, le taux de participation va être différent cette année.
Merci Jacques. C'était donc Jacques Aristide de VO Afrique en direct de New York.
Dans ce processus électoral riche en rebondissements, l'élément clé, c'est celui ou celle qui vote. Plusieurs personnes votent pour la première fois d'ailleurs, joint à New York par Nanit Talani. Et le professeur Mamadou Diouf, d'origine sénégalaise, estime qu'Hillary Clinton est mieux placée pour présider aux destinées de l'Amérique.
J'ai le sentiment d'avoir accompli un devoir normal de citoyen. J'attache une très très grande importance à la participation aux élections dans la mesure où, effectivement, être un citoyen, c'est participer non seulement au vote, mais participer à la vie communautaire. Parce que, en fait, on ne représente pas seulement soi-même dans le système américain, on représente aussi une communauté. Ce que ça veut dire, c'est que je représente, je suis un membre d'une communauté, la communauté noire en général, la communauté africaine, mais aussi je suis membre d'une autre communauté qui est la communauté musulmane.
D'après vous, qui serait le mieux placé pour être le futur président des États-Unis entre Hillary Clinton et Donald Trump?
Je pense que sans aucun doute, c'est Hillary Clinton. En tout cas, malgré la dureté de la campagne, malgré l'intervention du FBI 9 jours avant le vote, je pense que Hillary a encore des chances de gagner pour des raisons purement structurelles. C'est-à-dire la démographie américaine est aujourd'hui une démographie qui est contre un candidat comme Donald Trump. On le voit avec l'extraordinaire participation des Latinos, comme on les appelle ici.
Et pour vous, pourquoi Hillary serait meilleure par rapport à Trump?
Parce que Hillary est probablement le candidat le mieux préparé pour être président de la République. D'une part, parce qu'elle a été non seulement la première dame d'Arkansas, elle s'est engagée bien avant en fait, de terminer ses études dans les causes des droits civiques, la lutte contre la pauvreté. Elle a été première dame d'Arkansas, première dame des États-Unis. Elle a été pendant 8 ans le sénateur de New York. Elle a été pendant 4 ans le secrétaire d'État. Donc, elle a une expérience politique à la fois interne, domestique, et une expérience politique internationale, parce qu'elle a été l'architecte avec Barack Obama de la politique américaine pendant au moins 4 ans.
L'électeur américain d'origine sénégalaise, Mamadou Diouf.
Et tout comme Bertrand Djiki, d'origine camerounaise, qui espère qu'Hillary Clinton continuera l'œuvre de Barack Obama.
Tant que camerounais d'origine, c'est reconnaître le devoir civique, c'est de voter. Et c'est partie de nos devoirs. Décision pour choisir la personne qui va diriger le pays dans les 4 prochaines années et certainement mettre beaucoup de choses en place. ou améliorer certainement le système de vie.
Est-ce que c'est entre Hillary Clinton et Donald Trump, d'après vous, qui serait le mieux placé pour être le président des États-Unis?
Je continue à penser qu'Hillary va gagner. C'est que je souhaite qu'elle gagne. Je pense qu'elle va gagner. Hillary est extrêmement différente de son concurrent sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan social ou bien sur le plan économique. L'agenda d'Hillary va certainement non seulement nous protéger, et aussi peut-être permettre d'étendre le développement économique. Et nous aussi, on pense que ce sera important qu'Hillary gagne aussi pour protéger tout ce que président Obama a fait jusqu'ici, pour améliorer les conditions de vie des middle class et de low income.
Bertrand Djiki, d'origine camerounaise, au micro de Nani Talani.
Nathalie Barge a contacté à Arlington, en Virginie, Thomas Amtung, conseiller en santé mentale, originaire du Cameroun, tout juste avant qu'il ne quitte son domicile pour aller voter.
Je pense qu'avec ce nouveau souffle de Trump et avec tout ce qu'il propose, l'Amérique verra de beaux jours. Par exemple, je pense au niveau de l'éducation. Le système actuel ne permet pas qu'un parent puisse choisir l'école pour laquelle il voudrait que son enfant puisse y aller. Parce que le système qui est mis en place, c'est que l'enfant doit rester dans la circonscription où il habite. Il ne peut pas aller hors de cette circonscription-là. Alors, maintenant, là, nous, avec la proposition de Trump, le parent pourra choisir. Moi, par exemple, mon enfant, il a besoin de changer, il a besoin de quitter l'école dans laquelle il est actuellement. Mais il ne peut pas parce que le système qui est mis en place actuellement ne lui autorise pas de partir. Il y a quelques années en arrière, je votais démocrate et cette année particulièrement, je voudrais partir républicain.
Thomas Hampton, citoyen américain de l'État de Virginie.
Nombre d'électeurs américains ont voté par anticipation, comme Pepita Kragbe, présidente de l'ONG La Main Tendue, originaire de Côte d'Ivoire, qui a voté à Silver Spring dans le Maryland jeudi dernier.
Cette élection est particulière, c'est un peu comme Obama, le premier noir qui a été voté aux États-Unis et la première femme cette année qui se présente pour les élections présidentielles. Une femme qui a le savoir sur toutes les facettes du monde entier. Donc je veux prouver ma reconnaissance en cette nomination. Ma fille n'est plus au lycée, mais l'école aux États-Unis coûte très cher. Et quand les enfants finissent, ils ont des crédits à payer sur des années et des années, à tel point qu'ils ne savourent pas leur curriculum, leur fin de curriculum. Et là, j'ai aussi voté pour. Il faut alléger, donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école à un prix moindre.
Voilà, c'était Pepita Kragbe, citoyenne américaine résidant dans le Maryland.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Maintenant, voyons qui sont les deux candidats qui s'offrent aujourd'hui au choix des électeurs américains. Disons de préférence les deux principaux candidats, parce qu'il y en a plusieurs. D'abord, la démocrate Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État américaine qui est âgée de 69 ans, l'ex-première dame, veut être la première femme à diriger les États-Unis. Son portrait avec Lionel Gaïma.
Hillary Clinton a failli remporter les élections de 2008 après une campagne acharnée et a dû renoncer à ses ambitions face au jeune sénateur Barack Obama. Lors de son discours de concession, elle a parlé de sa lutte pour aider les femmes à surmonter les obstacles parfois appelés le plafond de verre.
Bien que nous ne sommes pas en mesure de briser ce plafond cette fois-ci, grâce à vous, ce plafond a maintenant 18 millions de fissures. Et la lumière brille à travers comme jamais auparavant. Cette lumière nous remplit d'espoir et de certitude que le chemin sera un peu plus facile la prochaine fois.
8 ans plus tard, Clinton a remporté la nomination et espère briser le plafond de verre ultime pour devenir président. Fille d'un père républicain, la petite Hillary est tombée dans la politique à cause de sa mère démocrate. Adolescente, Hillary était républicaine. Elle a étudié à Wesley College. Elle est devenue plus engagée politiquement. Elle a aussi fréquenté les bancs de Yale Law School, où elle est devenue une démocrate progressiste. C'est là où elle a rencontré son futur mari, Bill Clinton. Ils se sont mariés en 1975 et elle l'a suivi dans son état de Arkansas, où il a été élu gouverneur en 1978. C'est ici que Ron Fournier a couvert la famille pour la première fois. Il a fréquenté le couple à Little Rock et plus tard à la Maison Blanche.
Bill Clinton's very good about Bill Clinton a un très bon sens de l'humour. Elle en a aussi. Elle a de l'autodérision. Cet humour qui plaît à beaucoup de gens.
L'ancien porte-parole de Bill Clinton à la Maison-Blanche, Bob Weiner, nous raconte que Hillary fait preuve de beaucoup plus d'intelligence quand il s'agit de résoudre des problèmes et trouver des solutions que Bill Clinton ou le président Barack Obama. Mais elle n'a pas quelque chose qu'ils ont.
Elle sait qu'elle n'a pas le charisme, mais elle a l'intelligence et le pouvoir, ce qui est énorme.
Bill Clinton a été élu président en 1992. Il avait dit que les États-Unis s'étaient offert deux présidentes pour le prix d'un. Hillary était une première dame très politiquement engagée. Elle a mené plusieurs combats, mais elle a perdu celui du programme de la santé universelle. À la Maison-Blanche, les rumeurs persistantes des infidélités de Bill, le scandale sexuel de Monica Lewinsky, l'humiliation publique qu'a dû subir Hillary l'a beaucoup affectée.
Elle a changé à cause de tous ces tracas. Elle est devenue plus dure à cause des multiples obstacles auxquels elle a dû faire face.
Les mois qui ont suivi, le scandale était des moments douloureux, mais le mariage a survécu.
Ils essayent de faire face à leurs échecs conjugaux en privé. Je peux vous dire que je les ai fréquentés et ils s'adorent.
Hillary a tout fait pour survivre à cette période, forgeant sa propre carrière politique. Elle a remporté l'élection à New York pour le Sénat des États-Unis en 2000 et a été réélue en 2006. En 2008, Obama l'a nommée son secrétaire d'État. Elle a visité 112 pays et a utilisé son travail pour mettre en exergue les droits des femmes et le pouvoir de la diplomatie surnommée « soft power ». Maintenant, Hillary Clinton se trouve dans le combat politique de sa vie, la course à la Maison-Blanche le 8 novembre.
Le républicain Donald Trump n'est pas un politicien traditionnel. Il a 70 ans et vient du monde des affaires. Son portrait avec Michel Joseph.
Durant cette saison électorale, aucun candidat n'a autant surpris l'électeur américain que Donald Trump. Né dans le Queens, à New York, il était le quatrième de cinq enfants.
Son père était très autoritaire, très exigeant. Il était le boss. Et bien sûr, Donald a hérité de ses traits et caractéristiques.
En 1968, Donald Trump est sorti diplômé de la prestigieuse école des finances, The Wharton School. Avec son père, impliqué dans des projets de construction dans le Queens et Brooklyn, Donald a jeté son dévolu sur le quartier East River de New York. Trump avait cultivé des contacts d'affaires de son père. Avec son soutien, Trump a mis en place sa propre entreprise avec un investissement $1 million.
New York est le plus grand marché de l'immobilier dans ce pays. Et Trump est un entrepreneur moyen. La plupart des gens se disaient qu'il était un succès médiocre. Il a eu quelques succès, mais il a aussi eu quelques échecs.
Dans les années 1970, le ministère de la Justice a accusé la société de Trump de violer la loi sur l'égalité dans l'immobilier, puisqu'il avait empêché les minorités de louer dans ses bâtiments. Trump a réglé l'affaire à l'amiable. Il est peut-être mieux connu pour la Tour Trump, un complexe de $200 millions et des boutiques de vente au détail, 6 niveaux, atrium, 58 étages et une chute d'eau de 18 mètres. Trump est également connu pour la construction de casinos à Atlantic City, dans le New Jersey. D'abord Trump Plaza, puis le château de Trump, ensuite le Taj Mahal, qui coûte près $1 milliard et qui a finalement fait faillite. Lorsque le marché de l'immobilier a chuté en 1990, la valeur de son empire est passée de $1.7 milliard à $500 millions. Il a emprunté de l'argent et a trouvé de nouveaux investisseurs pour éviter la faillite. Son émission de télé-réalité The Apprentice a fait de Trump une star. Les participants faisaient la compétition pour être des gestionnaires dans l'empire Trump.
You're fired.
Trump a été payé plus de $200 millions pour cette émission. Trump a montré publiquement son intérêt pour la politique la première fois à la fin des années 80. Il a rejoint le Parti réformiste, le Parti démocratique, puis est devenu indépendant.
I am officially running for president of the United States.
Le candidat Trump a multiplié des déclarations controversées.
Lorsque le Mexique envoie ses gens, ils n'envoient pas les meilleurs. Ils envoient des gens qui ont beaucoup de problèmes et ils nous apportent ces problèmes. Ils viennent avec la drogue, ils viennent avec des crimes. Ils sont des violeurs et quelques-uns, j'imagine, sont de bonnes personnes.
Sa solution controversée, construire un mur à la frontière des États-Unis. Ensuite, Trump a appelé à une interdiction d'entrée des musulmans aux États-Unis suite à une attaque terroriste en Californie.
Les élections américaines sont très suivies sur le continent africain. Ce soir, les Abidjanais sont invités à suivre la soirée en direct. Claire Morin-Gibourg a rejoint notre correspondante en Côte d'Ivoire, Émilie Yob.
Ce soir, l'ambassade américaine à Abidjan organise une petite soirée électorale dans un maquis. Donc le public ivoirien est invité à suivre le déroulement du vote tout au long de la soirée. Et puis selon le patron d'un restaurant américain, des clients ont aussi prévu de suivre les événements chez lui à la télévision.
Alors vous qui êtes à Abidjan, est-ce que vous avez noté un intérêt particulier pour les élections américaines?
Il y a un certain intérêt en effet. Hier, l'ambassade a organisé une conférence autour du processus électoral et la salle était comble. Et donc les gens s'intéressent. Pose beaucoup de questions par rapport au processus électoral qui est très différent du processus ivoirien et beaucoup de gens disent que effectivement l'issue du vote des élections va impacter tout le monde. Il y aura un impact sur le monde entier et donc il est important de suivre ce qui se passe.
Comment les Africains ressentent-ils cette campagne et comment voient-ils les deux candidats Hillary Clinton et Donald Trump?
La plupart des gens savent identifier qui est Hillary Clinton, qui est Donald Trump. Après, en termes de programme, Clinton est un nom connu en Afrique de par son mari. Donald Trump est vu comme un homme d'affaires. Mais en tout cas, aux gens à qui j'ai pu parler ces derniers jours, beaucoup plus d'Ivoiriens ont une préférence pour Hillary Clinton.
Émilie Yob, correspondante de La Voix de l'Amérique à Abidjan.
Aux États-Unis, le vote populaire ne détermine pas nécessairement le vainqueur de la présidentielle. L'enjeu se joue dans les États qui ne votent pas traditionnellement, ni démocrates ni républicains. Pour gagner, un candidat doit atteindre le seuil de 270 voix, un collège de grands électeurs qui désigne à son tour le futur locataire de la Maison-Blanche. Les Américains renouvellent également le tiers des sénateurs et tous les députés de la Chambre des représentants qui siègent à Washington. Alors, pour comprendre le système électoral américain, Eric Manirakis a joint Émilie Baroudi, journaliste indépendant à Washington.
Le système électoral de la présidentielle est assez compliqué, assez ancien, parce qu'il a été pratiquement impossible de le changer depuis probablement 100 ans, sauf pour des détails vraiment mineurs. Chaque citoyen qui élit dans son bureau électoral ne donne pas sa voix au candidat lui-même. C'est donner sa voix à des électeurs formés par ses voix. Et c'est le groupe d'électeurs qui, en fait, pratiquement élit lui-même le président et le vice-président, le ticket. Chaque État a un nombre d'électeurs égal au nombre de sénateurs et de députés qu'il a à Washington. La plupart des États ont le winner take all. Ça veut dire que le candidat qui a la majorité prend tous les électeurs.
Donc aux États-Unis, avoir la majorité des voix sur tout le pays ne détermine pas nécessairement le vainqueur de la présidentielle.
Pas du tout. Le vote populaire n'est pas significatif parce que la structure fédérale des États-Unis fait que ce sont les États qui élisent et non pas tous les Américains en tant qu'un seul groupe. On se souvient de Bush contre Gore où le vote populaire avait donné une majorité de voix à Gore, mais c'est Bush quand même qui a été élu. Cette structure fédérale qui prend le dessus sur une structure plutôt unique comme il existe dans plusieurs pays du monde.
C'est aussi l'occasion de renouveler quelques sièges au Sénat et élire les nouveaux députés dans la Chambre des représentants.
Effectivement, les députés fédéraux, les membres du US Congress, le House est totalement renouvelé toutes les deux ans. Évidemment, une fois sur deux, ça tombe avec l'élection présidentielle. Le mandat de chaque sénateur est de 6 ans, donc tous les 2 ans, le tiers des sénateurs sont remplacés. Cette année, ça va être 33, donc le tiers du Sénat va être renouvelé en même temps que l'élection présidentielle. Et c'est aussi l'occasion de changer complètement la structure de ces deux chambres du Parlement américain. Et c'est pour ça que ça revêt une importance assez grande, parce qu'on pense toujours, et chaque candidat souhaite que pendant ces élections, il puisse avoir un congrès député et sénateur, qu'il ait une majorité dans chacune de ces deux chambres.
Washington.
Oui, Émile Baroudi, Morgane Guiriec et Gabi Dorsil vous ont présenté cette édition spéciale sur la présidentielle 2016 aux États-Unis. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Restons en contact sur Facebook et sur voafrique.com.